Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 secondes qui va arrêter ce ton agaçant pour vous rappeler, parce que c'est la tradition de l'émission, que 24 secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, surtout les écrans que vous voulez. Ce jour, eh bien une émission thématique auxquelles les habitués de 24 secondes seront habitués. En l'espèce, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale encore, me direz-vous, mais on va essayer de le faire de manière un peu décalée en évitant absolument les films américains, Dieu sait pourtant qu'ils sont nombreux, mais en privilégiant un peu d'autres points de vue sur cet événement majeur quand même de l'histoire du XXe siècle. Et on va commencer par le point de vue des vaincus, puisqu'il faut bien les appeler tels, en écoutant un extrait de la bande originale d'un film allemand sorti en 1980 et réalisé par Wolfgang Petersen qui s'appelle Le Bateau. Das Boot. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle en allemand, je l'avoue, mais le titre en tout cas en français me paraît bien impropre, puisqu'en fait de bateau il s'agit d'un sous-marin. Le film d'une durée de plus de 2 heures et qui était une super production, en tout cas pour le cinéma allemand, eh bien raconte l'histoire d'un sous-marin parti de La Rochelle à l'automne 1941, alors que la guerre déjà commence à basculer et qui va connaître de nombreuses péripéties, d'une part dans l'océan Atlantique et ensuite dans la Méditerranée, avec une fin un peu tragique, mais que je ne vais pas divulgâcher. Alors c'était un projet assez ambitieux et assez risqué, puisque évoquer la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma allemand, et avec un point de vue un peu défaitiste et avec un énorme budget, c'était pas forcément gagné, mais contre toute attente, le film interprété pour ce qui est du rôle principal, celui du commandant du sous-marin par Jürgen Prochnow, le film connut un gros succès, à la fois en Allemagne bien sûr, mais aussi dans d'autres pays, et pour cette raison-là, aussi bien Jürgen Prochnow que Wolfgang Petersen, le réalisateur, partirent vers Hollywood, où Wolfgang Petersen, en tout cas, poursuivit une carrière brillante, même si relativement balisée par les canons du cinéma hollywoodien. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée d'un réalisateur bien rare dans 24 secondes, Klaus Doldinger, Le Bateau, Das Boot, dans 24 secondes.
Thank you.
Ah ben voilà, ça se termine un peu brutalement, un extrait signé Klaus Doldinger, peut-être que je le prononce mal, de la bande originale du Bateau, un film de Wolfgang Petersen tourné en 1981, qui se passe quelque part dans la guerre sous-marine pendant la Seconde Guerre mondiale, guerre sous-marine et Seconde Guerre mondiale plutôt, à laquelle nous consacrons notre émission de ce jour de 24, notre seconde, et on va maintenant écouter un extrait d'un film alors duquel... j'ignore à peu près tout, je dois le dire, que je n'ai pas vu. Ça s'appelle Age of Heroes, je ne pense pas que ce soit sorti en France, donc ça s'appelle L'Âge des Héros, si vous l'avez compris, avec mon accent un peu laborieux. Un film d'Adrian Vittoria, sorti en 2011, et qui, là encore, de façon un peu indirecte, s'inspire de faits réels, en l'espèce celle des exploits pendant la guerre de Ian Fleming, qui, après la guerre, sera évidemment plus connu pour être le créateur de James Bond et l'auteur de nombre de romans ensuite adaptés au cinéma, comme nul ne l'ignore. En l'espèce, donc, le film suit la composition d'un nouveau commando, son entraînement, donc des figures très classiques du film de guerre, son entraînement sous la houlette du seul acteur connu, à ma connaissance en tout cas, du film, Sean Bean, qu'on aura vu notamment dans la série Game of Thrones, où il connaissait, sauf erreur de ma part, une fin tragique et relativement prématurée. Et puis ensuite, eh bien, tout ce bon monde est lâché dans la Norvège occupée pour capturer une nouvelle technologie de radar inventée par les Allemands et qui va bien évidemment changer le cours de la guerre. Vous l'aurez compris, rien que de bien classique, mais il faut bien explorer un peu ce genre de film peu connu pour sortir un peu des sentiers battus du film de guerre à l'américaine. C'est ce qu'on a essayé de faire. Le compositeur, lui aussi, reste relativement peu connu. Il s'appelle Michael Richard Plowman, l'ai-je bien descendu. Et on écoute un extrait de sa bande originale, Age of Heroes, dans 24 notes, secondes. We'll be right back. La musique musclée, c'est peu de le dire, de Michael Richard Plowman pour un extrait de la bande originale de Age of Heroes, un film d'Adrian Victoria qui se passe quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale. La date n'est pas précisée sur ma petite fiche, donc une évocation, une de plus, un film de 2011 qui prouve que la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ne quitte pas les écrans. Il y a toujours des films sur le sujet qui semblent inépuisables, et on va changer complètement de genre, d'ambiance, on va changer complètement musicalement aussi en écoutant un extrait de la bande originale d'un film, alors je prends mon élan, germano-franco-hongro-bulgaro-tchéco-yougoslave, quand ça existait, de 1995. Vous aurez peut-être reconnu qu'il s'agit d'Emir Kusturica, un film intitulé Underground, et qui commence pendant la Seconde Guerre mondiale, même s'il ne s'y termine pas. En fait, il commence en 1941, alors que les premières bombes allemandes tombent sur Belgrade, et un certain nombre de héros vont se réfugier dans des caves, et en 1945, alors même que la guerre, en 1944 même, alors que la guerre se termine et que la paix arrive, eh bien, les protagonistes du film vont faire croire aux autres que la guerre n'est pas finie, qu'elle continue, qu'il faut continuer à fabriquer des armes, et tout le monde va rester dans la grotte jusqu'aux années 90, pendant les années Tito, en fait, de la Yougoslavie. Et évidemment, derrière tout cela, il y a une sorte de métaphore qui consiste, et n'est-ce pas si vrai, qui consiste à montrer que la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle continue à occuper et à structurer le paysage politique, social, économique, que sais-je encore, les frontières, par exemple, qui ont été bâties à cette occasion-là. Et on peut compter sur Emir Kusturica, dont la fantaisie un peu provocatrice n'est jamais prise en défaut, pour faire de tout cela une sorte de farce un peu grotesque, et où la musique a une extrême importance, puisque du début jusqu'à la fin du film, il y a un orchestre qui joue en live dans la fameuse cave où se passe l'essentiel de l'action. Il faut dire que cette musique, elle est signée de Goran Bregovic, qui fut non pas le compositeur attitré d'Emir Kusturica, mais qui fut celui de la bande originale si connue du Temps des Gitans, et aussi celle d'Arizona Dream, l'incursion américaine plutôt réussi d'Emir Kusturica. Et là, Underground, qui obtint la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1995, Kusturica l'avait déjà obtenu 10 ans auparavant pour Papa est en voyage d'affaires, son premier film, sauf erreur de ma part. Eh bien, la Palme d'Or du Festival de Cannes, elle récompensait aussi cette alliance entre le réalisateur et le compositeur, avec beaucoup de fanfare, une musique inspirée la tradition ô combien riche des Balkans. Bref, un film tout à fait flamboyant, qui n'était évidemment pas une évocation documentaire de la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas le problème, et on va en écouter un extrait de la bande originale. Vous avez déjà compris, si vous avez suivi, qu'elle est signée de Goran Bregovic, que le film, il s'appelle Underground, et que l'émission, c'est 24 secondes.
Boom, boom, boom. bon, chichichavo, ropisto, chichichaye, suji, paya, ciao robobolice, ciao, suji e pagliara, oppa!
Sigari, stoi!
Ah ben ça c'est de la musique à la pêche, on ne peut pas le dire. Alors comme il y a deux fanfares qui sont créditées au générique du film et que je ne sais pas laquelle venait de vous interpréter cet extrait de la bande originale d'Underground, un film d'Emir Kusturica tourné en 1995, je vous les cite toutes les deux, le Slobodan Salijević Orchestra et le Boban Marković Orchestra, qu'ils soient tous les deux remerciés. Ça c'est vraiment de la musique et c'est tout à fait évidemment l'esprit d'Emir Kusturica. Il y a toujours eu une symbiose entre la musique, bien d'autres éléments, mais la musique et le film, c'est une des caractéristiques d'un cinéaste qu'on n'entend plus. Peut-être parce qu'il est serbe, ça c'est moi qui l'ai dit. On va rester donc avec la Seconde Guerre mondiale, on va passer à quelque chose de tout à fait différent, puisqu'on va retrouver une sorte de flegme à la britannique pour écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 2017 par Joey Wright et qui s'appelle « Les heures sombres » ou « L'heure la plus sombre » dans les deux cas. Alors « Les heures sombres » en France, « L'heure la plus sombre » au Québec, qui est la traduction, à vrai dire exacte, du titre original « Darkest Hour », et qui est un drame historique qui évoque très précisément la vie de Winston Churchill entre le 9 mai 1940, c'est-à-dire la veille de l'offensive allemande en Europe de l'Ouest qui suit la drôle de guerre, et le début juin 1940 où se situe ce qu'on peut appeler quand même la catastrophe de Dunkerque, qu'on va y revenir puisque le dernier film duquel nous parlerons évoque justement en détail cette catastrophe qui marque les débuts bien sombres de la guerre. Et donc le film, qui est peu spectaculaire, il y a peu de combats, s'intéresse plutôt à la façon dont Winston Churchill, qui est loin d'être un nouveau-né, ça fait déjà des dizaines d'années qu'il est dans les arcanes du pouvoir britannique, eh bien, va être obligé de lutter contre les partisans, aussi étonnant que ça paraisse, en mai 1940, les partisans de négociation de paix avec l'Allemagne nazie, qui existe encore en mai 1940, notamment au sein de son propre parti, le Parti conservateur. Et puis le film va aussi évoquer ses rapports parfois difficiles avec le roi George VI, roi George VI qui sera immortalisé, je pense que le film est à peu près de la même période, dans le discours d'un roi de Tobe Hooper, où Colin Firth faisait une prestation remarquée, vous savez, ce roi bègue, mais qui avait quand même vécu toute la Seconde Guerre mondiale en restant courageux dans son palais de Buckingham, pourtant bombardé par les Allemands. Bref, le film, lui, il évoque la personnalité de Winston Churchill. Il était donc important de trouver un acteur qui puisse incarner la chose. Alors j'avoue à ma grande honte que le choix de Gary Oldman m'avait dans un premier temps un peu interloqué, puisque je croyais l'acteur américain. Alors effectivement, il l'est, mais Gary Oldman, il est né en Angleterre, il est né même, je pense, à Londres, tout précisément, et donc il était tout à fait bienvenu pour incarner Winston Churchill. Il avait d'ailleurs incarné nombre de monstres sacrés, puisqu'il avait incarné notamment Ludwig von Beethoven, il avait incarné Lee Harvey Oswald, l'assassin de JFK dans un film d'Oliver Stone, et même le comte Dracula dans l'adaptation par Francis Ford Coppola de la fameuse histoire, et d'autres, bien d'autres rôles assez lourds, on va dire, qui le prédisposaient à un rôle de composition dans lequel il fut salué et qui lui permit même d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur en 2018. À ses côtés, il y avait la délicieuse Christine Scott Thomas, qu'on va juger à française d'adoption, et qui jouait le rôle ô combien difficile, j'imagine, aussi bien pour l'actrice jouant le rôle que pour la vraie personne jouant la femme de Winston Churchill, de Clémentine Churchill. Dans le film, on entendait aussi les fameux discours prononcés par Winston Churchill en 1940. La musique de ce film, elle était signée de Dario Marianelli, et on en écoute un bel extrait, « Les heures sombres », 24 notes secondes. Thank you. Un extrait signé Dario Marianelli de la bande originale des Heures sombres, un film de Joey Wright sorti en 2017. Alors je vous l'ai dit, le film se finissait à peu près l'histoire de la poche de Dunkerque, en fait l'avancée surprenante, en tout cas pour les soldats français et britanniques de l'armée allemande, fait que des milliers, des dizaines de milliers de soldats se trouvent coincés dans une poche à Zuidcoat, quelque part en mer du Nord. Ça sera l'objet d'un autre film de Christopher Nolan qui s'appelle Dunkerque justement, mais vu du côté britannique, puisqu'il faut bien reconnaître qu'une armada viendra sauver les soldats, mais d'abord les soldats anglais et ensuite les soldats français. En 1964, Henri Verneuil en fera une version tout à fait différente de celle de Christopher Nolan. Ça s'appelle Weekend à Zuidcoat. Jean-Paul Belmondo est dans le rôle principal d'un soldat un peu perdu dans une guerre trop rapide pour lui. Le ton est grinçant, mais la production intéressante. François Perrier, Jean-Pierre Marielle, bien d'autres à ses côtés pour un film assez défaitiste à la française, mais il faut dire que la bataille de Dunkerque fut loin d'être une page glorieuse de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est avec la musique de Maurice Jarre qu'on va se quitter pour ce film Zuidcoat, ou plutôt Weekend à Zuidcoat, 24 notes secondes. Et voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you and bye bye.